Multimédia. Une coproduction Radio Campus Lorraine, RCL.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Multimédia, votre demi-heure dédiée à l'actualité des médias, en passant par la presse, l'audiovisuel, ainsi que Internet et le cinéma. Vous écoutez RCN ou Radio Campus Lorraine sur le 97 FM ou sur le DAB+.
Multimédia.
Alors, je suis avec Julien, Pablo et Martin. Dites bonjour un petit peu.
Bonjour.
Ça, c'est un bon bonjour.
Bonjour,
on magnifique. Pas des pareils. On va d'abord couvrir les actualités, comme prévu. Hein. Avant de découvrir du coup une chronique du coup que t'as réalisée. On va commencer par toi exceptionnellement.
Oui, on va parler du service public. C'est pas très drôle, hein, mais on va parler de l'état du service public et qu'est-ce qui peut arriver à notre service public audiovisuel.
Suivi par Pablo.
Effectivement, on va parler d'être un journaliste en 2025.
Okay. Je pense que ça aussi, ce sera pas très drôle non plus.
On va voir, on va voir.
Et Julien qui nous fait un jeu pas super drôle du coup.
Si, on va pouvoir soit rigoler, soit pleurer de rire.
Super, c'est parfait. Bah du coup, on peut commencer avec les actualités. Fausse manip, la grosse actu de ce mois dernier, elle était inratable, donc on doit en parler. C'est le rédac-chef de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, qui, en ce beau matin du 24 mars 2025, a été ajouté dans un groupe Signal. Pas n'importe quel groupe Signal, avec, attention, J.D. Vance, le chef du ministère de la Défense, Pete Hegseth, le patron de la CIA et d'autres chargés du bombardement des outils au Yémen. Donc, croyant d'abord à un canular, il observe. Et l'info du bombardement est confirmée 3 heures après que le rédacteur en chef de Atlantic ait été mis au courant. Alors, cette faille de sécurité béante est le centre d'une enquête interne ouverte ce 3 avril, les responsables n'étant pas inquiétés. Le texte déclare, je cite, « à quel point le ministère de la Défense et d'autres responsables du ministère ont respecté les politiques et les procédures concernant l'utilisation d'applications commerciales de messagerie à des fins officielles ». Hold up face au holding. Si vous avez voulu écouter France Info ou France Culture il y a quelques jours, surprise et stupeur, il n'y a que de la musique. Et un message déclarant que Radio France est en grève contre le projet de holding du gouvernement. Bah, quel holding? Il faut remonter un peu l'info pour suivre cette affaire. Donc, 10 mars, Rachida Dati est revenue à charge avec son projet d'unification du service public. Donc, Radio France, France TV, je vais pas rester dans le détail sur ce côté-là, vu que je pique un peu ton info.
Oui, non, mais je ne rentrerai pas non plus en détail dans la fusion, donc...
Voilà, mais elle a déclaré se munir de l'aide de Laurence Bloch, qui est l'ancienne directrice de Radio France. 10 jours plus tard, le 20 mars, la grève est déclarée, ce qui n'empêche pas Dati de soumettre les amendements de cette réforme ce 30 mars. Coup de théâtre, l'examen en commission a été suspendu suite à un incident survenu ce 1er avril, ce n'est pas un poisson, suite à une altercation verbale entre la ministre de la Culture et l'administratrice de l'Assemblée nationale. Donc il y a 15 à 16 000 postes qui sont concernés dans cette réforme de service public. Ce projet du holding est aussi contesté par le Rassemblement National qui veut privatiser 100% du public. Comment est-ce que vous appréhendez ce projet de holding?
Oh bah c'est... C'est-à-dire qu'en fait c'est pas la première fois, il y a eu dans un sens... Pourquoi il avait été reporté? Ah bah oui, à cause de l'instabilité politique et des mésaventures de l'an dernier. Tout avait été reporté, mais c'est déjà des projets qui reviennent depuis longtemps. Dati, on voit bien qu'elle veut marquer un peu son passage au ministère, avec des buts pas toujours très clairs dans ce... Mais je vais pas rentrer plus en détail, puisqu'on en reparlera aussi, mais bon, on voit bien un petit peu les manœuvres. Puis ça me fait rire, le Rassemblement National, qui veut aller encore plus loin qu'un holding. Bon, les positions ne bougent pas.
C'est ça. Pablo, peut-être.
J'en dis pas plus, on verra un peu après aussi. On en parle vaguement, mais on
voilà, tease la suite.
C'est vrai que c'est juste une confirmation de ce qu'il disait déjà il y a plusieurs mois, et c'est encore plus inquiétant que ça s'inscrit dans ce contexte où tous les médias vont en ce sens.
C'est ça.
Donc,
Justement, en parlant de sens, l'ARCOM saisit encore CNews et Europe 1.
Encore.
Surprise.
Tiens.
Encore.
Ça fait beaucoup, là, non?
En passant par le RN, autant parler du traitement de la condamnation de Marine Le Pen par Europe 1 et CNews.
Putain, ça, j'ai même pas regardé, donc je suis curieux de voir.
Alors,
enfin, d'entendre ce qu'ils ont dit.
L'ARCOM a été saisi suite au traitement du procès par la radio et la chaîne de télévision appartenant au Big B, Bolloré. Le Pascal Pro a notamment comparé le jugement à la suppression de C8. Donc l'ARCOM doit ainsi évaluer le traitement de cette info.
C'est ça
qu'il faut dire. L'ARCOM doit ainsi évaluer le traitement de cette info par ses médias et vérifier si un dépassement des limites a eu lieu, pouvant mener à 6 mois de prison et 7500 d'amende. Justement, qu'avez-vous pensé de la couverture médiatique du verdict du procès ?
Bah moi j'ai pas je l'ai pas vu partout. Je sais qu'elle a été invitée sur TF1 le soir même, Marine
oui,
Le Pen.
Oui, c'était assez marrant d'ailleurs.
Et Gilles Boulot là.
Oui, pour une fois, ouais. Il a fait son travail, entre guillemets. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours le cas, c'est assez souvent sur TF1.
On peut dire qu'il a fait son boulot, pardon.
Oui,
il a raison.
Et après, sur les autres médias.
Sur les autres médias, je suis pas allé regarder parce que je consomme pas ce genre de médias. Mais je l'ai pas vu autant tourner que ça. Surtout parce que je pense, moi, de mon côté, j'ai surtout vu des gens qui étaient d'accord avec cette décision.
C'est ça.
Et du coup, je voyais plus de personnes qui disaient ah, bah enfin, on la condamne parce que ça a été reconnu. Comme,
oui, c'est ça, c'est qu'elle est coupable en fait.
Donc, juste, tu détournes de l'argent, oui, tu prends de la prison, c'est la moindre des choses, je pense.
Julien, toi, t'as vu un petit peu le.
Moi, je trouve ça marrant qu'on invite les gens, après une condamnation, à faire un récap, genre.
Alors, ça fait quoi d'être victime d'un coup monté?
C'est ça, c'est comme ça. Un violeur ou je sais pas quoi, et tu l'interviews, tu fais alors, t'en as pensé quoi?
Hein? Non, mais voilà, déjà l'interview de base de TF1 est particulière, c'est-à-dire que t'invites un condamné quand même.
Ouais, c'est ça, exactement.
Alors après, sur les autres chaînes, pour avoir du coup vu 2-3 extraits, on comparait quand même notamment cette condamnation, on basculait vers l'autoritarisme, la dictature. Ces mots-là ont été prononcés quand même.
Ah oui, il y avait
des mots qui ont été prononcés sur CNews d'ailleurs.
Démocratique, il a fait un bingo des mots qu'elle est sortie.
Ah oui, je me suis bien amusé effectivement. Je pourrais être communicant pour le RN malheureusement.
Non mais voilà, c'est, on verra bien où ça va, mais c'est terrible. Enfin, en tout cas, c'est mérité à mon goût.
Hanouna versus LFI. Après la publication d'un visuel réalisé par la France Insoumise dénonçant les dérives médiatiques de Cyril Hanouna, le principal visé par l'affiche a porté plainte, maintenant retirée. Cette affiche appelant au rassemblement le 22 mars a été accusée d'antisémitisme provenant de militants d'extrême droite et de ses médias, d'après LFI. Trump contre le service public. Il n'y a pas que la France qui menace d'avoir son service public sapé, mais aussi aux États-Unis. Déclaré comme inutile par le 47e président des États-Unis, ils sont financés presque exclusivement par le Congrès américain. La suppression de ce service public comprend donc Voice of America, qui a été créé en 1942 pour lutter contre le nazisme. Ça comprend aussi Radio Free Europe, Radio Free Asia, Radio et Television Marti et MBM au Moyen-Orient. Certains de ces médias ont d'ailleurs déjà cessé d'émettre. Bon baiser de Russie. RT France, pour rappel, vous vous souvenez d'RT France ?
Ah oui, c'est une chaîne de télévision russe.
C'est une chaîne de télévision russe qui, pour rappel, a été arrêtée car proche du Kremlin, car elle était financée par le gouvernement russe en 2023. Sa patronne, Xenia Fedorova, avait disparu des radars médiatiques depuis un petit moment, du moins jusqu'à ce mois de mars. Elle publie son livre « Banni à Fayard » et rejoint CNews en tant que chroniqueuse. Le point commun, vous l'avez deviné,
c'est pas mal, ça.
C'est le Big B, c'est Bolloré. Cette embauche a été mise en lien avec beaucoup de propos favorables à la Russie, en montée au sein du canal 16 de la TNT. Ce lien de plus avec l'extrême droite est relevé avec un rapprochement auprès de l'Amérique de Trump. Donc, devrait-on s'inquiéter de la propagande russe au sein de la première chaîne d'info de France ? Car je rappelle les chiffres, CNews est devenue la première chaîne d'info de France.
Merde.
Oui, et bien devant.
Ah, ça la fout mal.
Tu viens de l'apprendre.
Ouais, je savais qu'ils étaient qu'ils étaient consommés, mais premier, ça la fout mal quand même.
Genre, t'allumes la télé, ton réflexe, c'est CNews, quoi.
Ah, non, toujours.
Mais c'est chaud. Hein.
Toujours. Bon, devrait-on s'inquiéter, je réponds à la question, de la propagande russe au sein de cette chaîne?
En fait, le truc, c'est que cette chaîne avait été interdite en Europe. Elle doit émettre encore en Russie, mais elle avait été interdite en Europe.
Ouais.
Mais si c'est pour reprendre, en fait, des gens qui travaillaient sur cette chaîne, sur des médias en France, qui plus est, sont pas forcément connus ni pour leur objectivité, ni pour. Il y a eu 2-3 fake news racontés aussi. On peut se poser des questions légitimement. Après, ça veut pas dire que comme ils étaient journalistes dans ces chaînes, ils vont forcément reprendre la propagande du Kremlin. Mais disons que le risque est vachement amplifié quand même.
Xenia Fedorova, c'est pas n'importe qui, c'est la présidente.
Oui,
c'était la présidente. C'était donc quelqu'un de assez haut placé. C'était, c'est surtout pour ça en fait. C'est pas un petit journaliste qui a fait des piges, enfin qui a fait des piges ou qui a fait des petits reportages,
oui,
qui cherchait un job en sortant d'école. Non, là c'est vraiment quelqu'un qui était pleinement impliqué et qui était là-haut dans la hiérarchie.
C'est ça.
C'est comme genre, imagine t'es sur une chaîne de télé genre la 8 et la chaîne elle est fermée genre et tu reprends l'émission de télé pour la remettre sur une autre chaîne. Genre,
ouais, c'est bizarre, ouais.
Genre imagine. La 9, genre. Imagine.
Et en pan de reprise, c'est ce qu'on va faire dans pas longtemps parce que c'est l'heure d'une qu'on va s'écouter Rod Stewart, She Won't Dance With Me. Et juste après, on va s'écouter les chroniques de Martin et de Pablo et suivi du jeu de Julien.
Ouais.
Multimédia. Une coproduction Radio Campus Lorraine, RCN.
Vous êtes toujours sur Multimédia, vous écoutez bien RCN ou Radio Campus Lorraine. On va enchaîner tout de suite avec ta chronique, Martin. On l'a un petit peu teasé. Il faut qu'elle soit à la hauteur.
Bah oui, bon.
Aucune pression.
Non, mais il faut écouter cette chronique assis, parce que bon, c'est vrai que c'est pas forcément marrant. Bon, je vais vous parler service public, on le disait, parce que ces dernières années sont très mouvementées pour l'audiovisuel public. Je vais pas revenir sur son histoire, parce que bah, non seulement j'ai pas le temps, cette chronique est déjà assez longue, mais aussi parce que j'en avais fait une chronique l'an dernier dans cette même émission, donc bah, si vous voulez réécouter le podcast. Donc je vais me concentrer sur ce qui se passe et ce qui risque de se passer pour l'audiovisuel public dans les années à venir. Alors depuis plusieurs années, il y a un peu un mot d'ordre, fusionner. Donc déjà en 2015, la rédaction des sports est devenue la même pour l'ensemble des antennes de Radio France. En 2019, on commence à rapprocher les médias de proximité, France 3 et France Bleu, avec notamment les matinales radio qui sont désormais diffusées en télé et filmées. Alors non, sans contestation, principalement du côté de France Bleu, quand les journalistes ne sont pas tous d'accord pour faire de la télé, bah, ils ont été quand même embauchés pour faire de la radio à la base. Ah bon ? Et puis les moyens supplémentaires nécessaires ne sont pas forcément au rendez-vous. L'an dernier, plusieurs projets de fusion de rédaction ont été retirés suite à la mobilisation des journalistes. Je pense notamment à la rédaction culturelle et scientifique. Ils craignent d'avoir donc moins de diversité de programmes ainsi que de possibles suppressions de postes. Bon, prenons un exemple. S'il y a une seule rédaction culture pour toutes les radios publiques, bah, les sujets et les reportages seront les mêmes entre les différentes antennes. Donc Radio France perdrait en richesse de programmes et de points de vue, ce qu'elle a aujourd'hui. Et donc c'est aussi l'avantage du service public aujourd'hui. Bon, tout cela, c'est sans compter sur Rachida Dati, ministre de la Culture, qui veut faire sa réforme complète du service public. On le disait dans les infos. Donc un holding de Radio France et de France Télévisions. Encore un beau moyen d'avoir une verticalité dans les décisions, ce qui augmenterait évidemment donc le risque d'intervention dans les rédactions. Bon bref, le projet de loi est, on le disait, actuellement à l'Assemblée, malgré une très forte opposition des journalistes qui craignent un retour à l'ORTF. Ils ont bien raison, car Rachida Dati a vendu la réforme en se souvenant du bon temps de l'ORTF qui réunissait toute la famille devant son poste de télé. Véridique, hein, ça a été dit en conférence de presse. Bon bref, Rachida, juste un truc, l'ORTF était contrôlé par un ministère de l'information, donc pas sûr de l'argument, quoi. Ou alors c'est ce que tu veux, et là c'est encore plus inquiétant. Bon, autre réforme, fin 2022, il a annoncé la suppression de la redevance audiovisuelle en le remplaçant par une fraction prise sur la TVA, donc officiellement pour mettre moins d'impôts, patati patata. Bon, qu'est-ce que ça change? Bien, l'audiovisuel n'est plus soumis, enfin n'était pas à l'époque soumis au vote du budget de l'État chaque année. Le budget était fixé et était plus difficile de modifier d'une année sur l'autre. Bon, désormais c'est au bon vouloir des députés du gouvernement, et quand on voit l'instabilité politique, c'est pas forcément terrible. Ça peut faire peur quand on voit que l'extrême droite, qui souhaite sa suppression pure et simple, se rapproche petit à petit du pouvoir. Résultat, on voit déjà les effets de cette mesure, notamment en période d'austérité budgétaire, 80 millions d'euros en moins sur le budget de l'audiovisuel public cette année. Alors c'est vrai, la redevance était devenue obsolète, seulement les foyers possédant un téléviseur étaient concernés. Bon, critère pas terrible aujourd'hui, c'est sûr, mais une réforme était peut-être envisageable au lieu de la supprimer tout simplement, quoi. En parlant de supprimer l'audiovisuel public, je le disais, l'extrême droite, ça rêve surtout de privatiser, en fait. C'est même pas forcément supprimer, mais privatiser.
C'est encore pire.
Oui, c'est ça. Donc le premier argument, ça coûte trop cher. Bah oui, c'est vrai, combien ça coûte l'audiovisuel public? Bon, en écoutez, les cas du Rassemblement National, c'est environ 3,8 milliards d'euros par an. Alors déjà, ce chiffre est un peu trompeur, parce que l'audiovisuel public, ça génère des recettes, principalement par la publicité et par la vente des programmes. Résultat, près de 500 millions d'euros de recettes sont générées par les chaînes publiques chaque année. Et ensuite, il faut savoir que l'audiovisuel public, c'est pas que de la télé et de la radio, ça a aussi des obligations vis-à-vis de l'État, notamment dans le soutien au cinéma, à la production française, où plus de 500 millions d'euros sont investis chaque année. Donc en prenant en compte les recettes, on se rend compte que le coût du service public audiovisuel représente moins de 4 euros par mois par français. Alors pour certains, ça peut paraître beaucoup, mais voilà, c'est ce que coûte aujourd'hui un bon service public. Alors, autre argument avancé par le RN pour sa privatisation, ouais, ce sont des chaînes contrôlées par l'État. Bon, sous-entendu, c'est l'État qui dirige l'idéologie des chaînes. C'est vrai que les chaînes privées sont très indépendantes au niveau éditorial, n'est-ce pas, Bolloré? Ça a l'air, hein. Bon, il ne dérange pas trop à racheter les médias pour répondre à l'idéologie d'extrême droite, hein. Bon, donc après, est-ce que l'audiovisuel public est totalement indépendant de l'État sur cette question? Bon, c'est difficile à dire. C'est certainement quand même la structure médiatique qui respecte plus la liberté de la presse dans le pays. Un exemple, hein, des enquêtes réalisées soit par la cellule d'investigation de Radio France, ou les enquêtes réalisées par France Télévisions comme complément d'enquête ou cache investigation. Ces enquêtes sont pas toujours tendre avec le pouvoir en place, hein, donc on pourrait dire qu'il n'y a pas vraiment de censure entre des révélations sur l'affaire Benalla, des documents à charge sur le délabrement de l'hôpital ou du ferroviaire, ou plus récemment une enquête sur les eaux contaminées. Tout ça était parti donc de nos médias, du service public. Bon, à l'inverse, on a pu voir des manœuvres qui peuvent laisser penser qu'il y a une intervention de l'État, ou au moins une volonté de lisser l'image et pas faire de vagues au niveau du service public pour ne pas froisser éventuellement certains partis. Je pense notamment, entre autres, à des humoristes qui ont été écartés ces dernières années des antennes avec des motifs pas très clairs, notamment Stéphane Guillon, viré en 2010, vraisemblablement parce qu'il avait critiqué le patron de Radio France à l'époque. Plus récemment, Guillaume Meurice, l'année dernière, après que Pascal Praud s'était indigné sur une blague sur Netanyahou, blague qui dénonçait quand même l'oppression des Israéliens par Netanyahou. Mais bon, même critiquer un tyran, ça devient risqué aujourd'hui. Et là, je vais arriver à la question. Oui, mais France Inter, la radio des gauchos, et pourquoi on paye ça?
Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Bah ouais. C'est une honte.
Et franchement, regardez qui intervient à l'antenne, rien qu'en matinale de France Inter. On retrouve Dominique Seux qui disait que la croissance économique était bonne pour le climat. Léa Salamé qui n'est pas super à gauche non plus. Sophia Aram qui se définit elle-même, je cite, comme une vraie connasse de droite. Bon, au moins un peu de lucidité. À gauche, y a Charline Van Hoenecker et éventuellement Patrick Cohen, même s'il fait un vrai travail journalistique. C'est pas la panacée non plus. Et au niveau des intervenants, j'ai regardé la répartition des temps de parole politiques. Tout ça est disponible sur le site de l'Arcom, donc je me suis amusé un petit peu avec des tableurs Excel. En décembre 2024, en regroupant les politiciens de droite, de centre-droit et d'extrême-droite, on arrivait à 33 minutes de temps de parole sur Inter. Et si on rassemble la gauche et le centre-gauche, parce que non, LFI n'est pas d'extrême-gauche, c'est pas moi qui le dis, mais c'est le Conseil constitutionnel, on arrive à 43 minutes. Donc on n'est pas loin de l'équilibre. Et encore, j'ai pas compté les macronistes à droite, j'aurais pu, donc pour l'instant, là, je les ai pas comptés. Donc là, on est déjà quasiment à l'équilibre. Et France Info, alors là, par contre, ça m'a surpris. La droite a eu en décembre environ 11 heures de temps de parole et la gauche 8 heures. Bon, après, c'est peut-être aussi à l'image, hein, du paysage politique aujourd'hui. Donc Radio France, le média des gauchos, ça marche pas terrible, votre truc quand même. Puis un petit truc aussi, l'Union européenne protège légalement la liberté de la presse ainsi que les services publics de l'audiovisuel. Rappelons que chaque démocratie, quand même, globalement, a souvent un service public audiovisuel. Après, c'est pas un scoop que le RN ne connaît pas les lois européennes ou fait semblant de pas les connaître. Chacun fera ce qu'il veut. Bon, en conclusion, malgré les réformes, il faut rappeler 2-3 chiffres sur le service public. Plus de 15 millions d'auditeurs mensuels sur les antennes de Radio France. Les deux premières radios de France sont France Inter et France Info. Les chaînes de France Télévisions rassemblent près d'un tiers des audiences de l'audience télévisuelle. Puis je parle pas de l'application Radio France et France Télé qui font de très très bonnes audiences avec beaucoup beaucoup de contenu. Donc l'audiovisuel public permet de soutenir aussi le cinéma et les productions françaises, permet une éducation aux médias et des jeunes, et puis permet d'avoir des chaînes qui n'appartiennent pas à des milliardaires qui contrôlent la ligne éditoriale, et tout ça gratuitement, quasiment sans publicité. Alors il est pas beau notre service public ?
Il est vraiment beau.
Surtout que les gens le consomment pour cette raison en fait.
C'est ça. Donc et ça marche en fait, c'est-à-dire qu'il a, on bat de record, d'ici quelques jours on va avoir les audiences encore de radio bientôt du premier trimestre 2025, ça n'arrête pas, on a vraiment un service public qui marche de mieux en mieux. Et là on est en train de nous dire ouais bon allez faut renforcer les synergies. Hein,
c'est l'un des rares médias auxquels les gens ont encore confiance finalement.
La radio ?
La radio, tout ce qui est service public.
Ah, oui,
les
oui.
gens ont encore confiance au service public. C'est vrai.
Bah oui, mais en même temps, on voit aussi beaucoup de gens quand même qui disent que oui, mais c'est très à gauche, tout ça.
Wow.
Alors c'était peut-être le cas il y a quelques années. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on est un petit peu en train de bouger.
C'est la fenêtre d'Overton qui a bougé, quoi.
Oui, non, c'est sûr. Après, bon, voilà, il faut aussi comparer, enfin, faut voir tout ce que fait. Je parlais pas aussi de RFI et de l'INA qui sont des services publics hein, de la télévision. France 24, tout ça, c'est aussi les médias français partout à l'étranger, sur le monde. Ça, c'est quand même chouette d'avoir ça. Même Arte, hein, c'est franco-allemand.
C'est vrai.
Ça, c'est bien d'avoir tout
et
ça.
Et c'est beau, et c'est ce service public, et c'est public. Suivant, Pablo.
Suivant.
Bah, déjà,
tu es à la barre.
Déjà, je veux dire bravo. Pour ta chronique, Martin.
Bah, merci.
Voilà. Parce qu'on se soutient entre collègues. Voilà. et du coup, bah, allez, je me lance. Donc, c'est le moment de la chronique. Et pour faire une chronique de multimédia, bah, il faut des actus. C'est sympa, les actus. Il y a plein de trucs qui se passent partout dans le monde et tout le temps. Et c'est compliqué quand on a son 35 heures semaine de se déplacer à chaque instant sur la totalité des endroits de la planète où se produisent l'intégralité des faits qu'on entendra à la radio. Vivre en direct la liste exhaustive des événements quotidiens, bah, en fait, c'est pas possible. Et c'est là qu'interviennent les médias.
Magnifique
invention. Oh, les médias. Les médias, c'est super chouette. Les médias, ça permet de vivre plus ou moins instantanément, insérer info insolite, ou tout du moins de le vivre depuis chez soi avec quelques minutes seulement de délai. C'est positif, les médias. Médias, ça rime avec petit chat, avec chocolat, avec pétunia, ou parfum, ou bois d'acacia. Et du coup, on se dit que ça doit être vraiment bien, les médias. Sauf que les actualités dans les médias ces derniers mois, ça rime plutôt avec désarroi, RERA, chlamydia ou égorger un petit chat. Enfin, plein de trucs qui éveillent en nous beaucoup moins de pensées agréables. Et on se dit que journaliste, ça doit être un métier formidable. Que ces personnes sont fortes d'une bravoure à toute épreuve et d'un dévouement entier de leur existence pour alerter la population. De choses super importantes et qui les touchent véritablement. Genre les innovations pour contrer le dérèglement climatique, des événements culturels enrichissants, des initiatives locales et solidaires pour un meilleur pouvoir d'achat, ou révéler les raisons de la course à l'armement européenne, ou les dangers d'une politique dominée par les oligarches. Sauf que Bolloré, notre milliardaire colonialiste préféré, le Big B, et ben il commence à acheter les écoles qui forment ces fameux journalistes. Et puis il y a le CLEMI, le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, qui organise auprès de collégiens de Rouen une visite chez Europe 1, et même une rencontre avec l'un des animateurs et idoles des jeunes, Cyril Hanouna. Bah oui, parce que les raisons je décide, c'est permettre aux élèves de découvrir les coulisses du journalisme et le fonctionnement d'une station de radio.
Hanouna et journalisme. Alors, dans la même phrase.
Pourquoi pas, hein, mais Hanouna il fait autant de journalisme que votre oncle raciste dit au repas de Noël. Tu sais, l'important c'est que tu sois heureux. Donc vraiment, pas sûr de la démarche. Et puis sinon on se dit que les vulgarisateurs, les chroniqueurs et humoristes radio ou télé, c'est nous, bah ils vont vous éclaircir de manière objective et sans filtre sur les événements et la direction que prend la société. Bah, sauf que Jean-Michel Apathy, il est suspendu de RTL. Et Guillaume Meurice de France Inter pour avoir utilisé le N-word. C'est le mot nazi.
Pour comparer les agissements de la France ou d'Israël vis-à-vis de certaines minorités, on se dit que les plateformes actuelles qui relaient les informations à l'ensemble des citoyens, elles sont au service de l'internaute, qu'elles permettent une communication illimitée et impartiale. Sauf que la presse écrite, les radios, les chaînes de télévision, bah, elles appartiennent à des messieurs avec des costumes gris anthracite qui ont un très gros compte en banque et dont les objectifs c'est de cultiver des idées et une politique avantageuse pour ce portefeuille. Donc Elon Musk et Mark Zuckerberg, ils enlèvent la vérification d'informations sur les réseaux sociaux, ils mettent en avant sur leurs services des contenus politiques dont ils sont proches. Canal+, il fait tout pour garder à flot, touche pas à mon poste aussi longtemps que possible, malgré 36 chefs d'accusation, c'est le bon chiffre ?
Oui, 35 ou 36.
35 ou 36,
bon, il y en a tellement.
Et des condamnations contre C8, dont désinformation, diffamation, discrimination, et t'en as d'autres, Martin, t'en avais parlé.
Oh, j'avais fait une liste, mais
c'était amusant.
Si vous êtes curieux, vous irez les écouter. Et même après une censure, évidemment, de l'ARCOM. Il y a Trump aussi qui discrédite lors d'allocutions officielles certains médias, dont des journalistes qui ont posé une question un peu trop dérangeante à son goût ou à contre-courant de ses idées. Il a parlé comme ça de la NBC, de Washington Post ou de Voice of America. On se dit aussi qu'aller en manif, c'est un droit et une bonne chose pour montrer son mécontentement envers certains faits ou certaines décisions, surtout quand c'est une marche contre le racisme. C'est cool. Sauf que certains CRS balayent et matraquent des journalistes sur le terrain comme Clément Lanneau de CL Press qui filmait simplement le déroulé de l'événement. On se dit aussi que le service public, c'est une bonne alternative. Qu'un média subventionné par l'État et sans intérêt financier, c'est une solution viable pour des reportages et des renseignements intègres et objectifs. Sauf que le RN, il a dans son programme l'idée de privatiser, effectivement, ce service public, t'en as parlé Martin, et donc de le vendre aux fameux messieurs avec des costumes gris anthracite. Mais bon, ils sont pas encore au pouvoir, le RN, donc ça reste une hypothèse, donc un peu de réalisme. Rachida Dati, elle veut tout fusionner, et voilà, c'est trop bien. Plus qu'une seule structure à subventionner, donc ça coûtera moins cher. Pour économiser du personnel, plusieurs feront à présent le même métier, donc on en virera certains. Donc Martin, soyons réalistes, on va finir par bosser pour un milliardaire. On n'a pas le choix.
J'ai un peu peur, ouais.
Ou pas bosser du tout.
Ou pas bosser.
C'est possible.
Ah, aussi. Choix. Bon, que des choses super sympas depuis 3 minutes. Bien sûr, il faut écouter le négatif parce qu'il n'y a pas de cicatrisation sans chute, de lumière sans obscurité, de gâteau sans cerise, de ketchup sans frites, de gauche crédible sans Jean-Luc Mélenchon. Ok, si peut-être. Mais n'oublions pas que d'autres médias et journalistes indépendants existent et se battent chaque jour pour une information juste et équilibrée. On parlait de Mediapart, Arte, des médias locaux et associatifs comme nous, petit ouais. auto-promo. Il faut comprendre que le but caché derrière ces messieurs au costume gris anthracite, c'est de nous saturer le cerveau pour pouvoir nous faire avaler encore plus de grosses pilules. Donc c'est à nous, consommateurs d'infos, de s'informer sur ce qui nous informe pour comprendre les intérêts derrière une transmission d'idées et de consommer l'actualité en connaissance de cause avec du recul et en croisant les sources si possible. Pour finir, on arrive à la fin, promis. Vous aviez peut-être remarqué qu'à chaque fin de mes chroniques, j'ajoute le gimmick « on garde le smile ». Vous aviez remarqué
oui,
ou pas ?
Oui, c'est vrai.
Ouais,
si
ouais.
vous me disiez non, je le prenais super mal. Bah voilà, c'est un peu ma philosophie et je pense que pour compenser la dose quotidienne de négatif qu'on nous file avec T, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire à notre humble échelle d'être humain pour répandre un peu de couleur dans notre réalité. Alors, gardons le smile.
Merci Pablo, merci Martin. Véritable justicier des médias.
Oui,
c'est bah, on essaye à notre échelle bah, de... Ouais. Dire ce qui nous passe par la tête, disons, et comment on ressent les médias. Quoi.
Maintenant, voilà, on voilà. va tester notre culture à notre échelle.
Oh,
Julien,
wow.
tu nous as préparé un truc.
Ok, je vous propose un petit jeu. J'ai récolté des phrases qui ont été dites soit avant le, enfin pendant le XXe siècle, donc okay. Les années 1900 et entre 1900 et 2000, soit après 2015. Et je vais vous dire la phrase, et vous devrez deviner dans un premier temps si c'est actuel ou si c'est du
plus
passé.
Ancien.
Voilà. Alors, je commence.
Ça va être très drôle déjà.
Je cite, ouvrez les guillemets. Le problème des urgences, c'est que c'est rempli de Mamadou.
Ah si, c'est récent, 21e siècle.
21e siècle.
Ok, et c'est qui ?
Emmanuel Macron. Macron. Hein.
Oui, c'est okay. Emmanuel Macron qui a dit ça
quoi ?
Dans un cercle
oui,
privé. Et,
oh,
et ça a été reporté par Libération. Ah. Voilà, ça date de novembre 2023.
C'est que tu vois, Pablo, t'étais pas au courant, c'est ça ?
Bah non.
Non mais on voit bien que, en fait, ce genre d'infos... C'est pas relayé et on voit très bien que certaines infos sont pas relayées. Enfin, ça, c'est encore un autre débat, mais c'est des choses qu'on observe aussi. Bon, c'est... voilà.
Oh, allez, j'ai envie de voir la suite du coup.
Je propose un autre. Ok. L'occupation allemande en France n'a pas été particulièrement inhumaine.
20e.
Ça, c'est avec du recul qu'on dit ça. Ça, c'est en 2015.
C'est ça, j'ai un peu peur aussi.
Non, mais techniquement, les mémoires, ça a commencé fin du 20e. Donc, ça peut
alors,
être.
Ouais. On est sur du 1997 et ça a été dit par. Jean-Marie Le Pen.
Oh, bien joué.
Bah, de toute façon,
non, non. ça a été dit sur RTL, tête. Donc en 97.
Voilà.
Allez, suivant. Les Roms, les Gitans, il faut les recenser.
Ça veut dire quoi, recenser?
Il faut les compter, quoi. Il faut vraiment savoir qui ils sont et où ils sont, quoi.
Oh, ça, c'est à l'époque, ça peut pas être aujourd'hui.
Ça, c'est à l'époque.
Enfin, après, on est surpris de l'époque, hein, mais...
Ouais, 20e.
2018.
Ok.
18.
Par Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur.
Ah bah tiens.
Ah oui, l'Italie. La fameuse Italie.
Voilà, prononcée relayée par La Repubblica, qui est un journal italien. Voilà.
Merci beaucoup, Julien.
Je sais pas si c'est rassurant, en fait, cette émission. Elle s'est fait
grave.
Décliner,
merci
en fait.
Beaucoup d'avoir écouté Abus du Multimédia jusqu'à la fin. Vous étiez avec Martin, Pablo et Julien.
Bonjour.
Oui, on dit au revoir généralement. On se retrouve pour l'émission du mois de mai et on vous dit au mois prochain.
Au revoir.
Regardez X-Files. Bisous.